le berceau de l'histoire. Jean-Pierre Constantin.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire et de sexualité. La sexualité en Mésopotamie, à Babylone, à Sumer, dans ces pays lointains, lointains dans le temps et dans l'espace. Et pour parler de ce sujet, j'ai invité Véronique Grandpierre, qui est agrégée d'histoire, qui est docteur en assyriologie, qui est spécialiste des langues de l'Orient ancien et de la Mésopotamie en particulier. Véronique Grandpierre, bonjour et merci de venir nous voir à RFI.
Bonjour à tous et merci de m'avoir invité.
Alors, vous êtes historienne, donc assyriologue, vous êtes spécialiste des langues de l'Orient ancien, le sumérien, l'akkadien. Il y a quatre langues en gros, hein, le sumérien et l'akkadien, plus deux variantes de l'akkadien que sont le babylonien et l'assyrien, qui a donné son nom à la discipline. Donc, c'est une période qui s'étend à peu près sur 3000 ans, de la fin du 4e millénaire presque jusqu'au début de notre ère. Donc c'est très ancien. Alors, vous avez surtout publié un livre qui s'intitule « Sexe et amour de Sumer à Babylone ». C'est dans la collection Folio de Gallimard. C'est un petit bijou. On apprend plein de choses nouvelles qu'on ne connaissait pas, en tout cas moi que je ne connaissais pas. Et la première chose qui nous étonne en lisant ce livre, d'entrée de jeu, c'est la quantité de textes que nous avons, qui nous restent. Des textes qui sont pour la plupart sur des tablettes d'argile, donc sur un matériau périssable. Et pourtant, nous avons beaucoup de textes, énormément de textes. C'est extrêmement étonnant. On découvre ça. Qu'est-ce qui explique ce corpus assez important ?
Alors, deux choses. La première, c'est le temps, énormément de, comme vous l'avez dit, c'est sur trois millénaires, donc qu'on ait beaucoup de choses, cela s'explique. La deuxième raison, c'est parce que justement, ce sont sur des tablettes d'argile crue. Si vous prenez une feuille de papier, il y a un incendie, votre feuille de papier brûle, votre ordinateur brûle, une tablette d'argile, cela cuit.
Et donc, ça la fixe.
Ça la fixe.
Inversement, s'il y a de la pluie...
S'il y a de la pluie, votre papier devient un blougi-boulga infâme, votre ordinateur, vous ne le rallumerez pas. Et votre tablette d'argile, si vous prenez une pelle et que vous prenez la terre qui est en dessous, vous la refaites sécher au soleil, vous avez au moins une face.
En tout cas, c'est un corpus assez impressionnant. On a énormément de vestiges, on a énormément de textes, très riches aussi, des textes très variés. Alors, on va en parler en détail, mais pour un peu donner une idée aux auditeurs, nous avons trois sortes de textes. Nous avons des textes littéraires, qui sont surtout en sumérien. Nous avons des textes de la vie quotidienne, des jugements, qui réglementent un petit peu les rapports entre les couples, des actes de mariage, de divorce, des jugements concernant des affaires d'adultère, des affaires de viol. Malheureusement, ça existait déjà. Des divorces, etc. Et nous avons aussi des textes un peu plus légers, on va dire, qui parlent de la manière de séduire, qui parlent de la manière de satisfaire, de se présenter, etc. On va entrer dans le détail. On va commencer par les textes les plus anciens et aussi par les textes les plus littéraires. Ce sont les textes en sumérien qui concernent essentiellement la sexualité des dieux. Mais avant ça, vous commencez dès l'introduction à tordre le cou à un mythe qui est le mythe d'Hérodote, celui que certains appellent le père de l'histoire, Hérodote donc l'historien grec, qui a fait aux Mésopotamiens, donc aux Orientaux, une réputation extrêmement désagréable. Et Hérodote disait n'importe quoi, dites-vous, c'est vrai ça ?
Alors, je n'ai pas dit qu'il disait totalement n'importe quoi, mais il fantasme beaucoup sur ce dont il a entendu parler. Il faut voir que la civilisation grecque est une civilisation qui est totalement différente de la civilisation babylonienne. Et cette civilisation babylonienne à la fois fascine les Grecs, notamment par sa richesse, par son degré de connaissances scientifiques, mais en même temps, c'est l'inverse total de la civilisation grecque. La civilisation babylonienne, avec un roi désigné par des dieux, avec des femmes qui peuvent parfois avoir un petit peu de pouvoir, non, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement les Grecs, mais regardez les peintres orientalistes de la fin du 19e siècle, vous avez exactement la même façon de voir les choses. Si vous prenez Delacroix ou Rochegrosse, vous avez le roi babylonien dans son palais avec ses chevaux, ses femmes, le roi habillé avec des grandes robes presque transparentes sur son lit pendant que sa ville est en train de s'écrouler. Il ne fait rien pendant que les maisons sont en feu.
Préjugé
avec toutes ces orgies que l'on décrit, ce pouvoir qui finalement est détenu par les femmes et qui sont effectivement pas du tout la réalité de l'époque.
Et en fait, à travers ces textes mésopotamiens que vous pouvez lire, que vous avez le privilège de pouvoir lire, qui n'est pas donné à tout le monde, on découvre une autre civilisation, une autre image de cette société qui était en fait extrêmement évoluée.
La société est tout aussi évoluée que la nôtre. En fait, les gens sont les mêmes, que ce soit au 3e millénaire avant Jésus-Christ ou au 3e millénaire après. Ce sont les moyens techniques qui diffèrent, mais les gens finalement pensent la même chose.
Il y a trois sortes de textes, donc la littérature qui parle, les textes littéraires donc, qui parlent de la sexualité des dieux. Alors contrairement aux Grecs et aux Romains, les dieux et les hommes ne se mélangent pas chez les Mésopotamiens, chacun chez soi.
C'est normal, un dieu c'est comme un homme, ils sont anthropomorphiques, mais c'est comme un homme mais en un million de fois plus développé. Donc, si vous voulez, si un dieu fait l'amour à une femme, ça va poser un problème. Le dieu Enki, qui est le dieu de la sagesse, un dieu très sage, le dieu de la sagesse, au moment où il fait sa crise d'adolescence, n'arrête pas de se masturber. Il se masturbe un peu, et quand il se masturbe, ça donne le Tigre et l'Euphrate. Vous imaginez s'il était en train de faire l'amour à une femme ?
Deux fleuves. Oui, c'est impressionnant.
Vous voyez, quand je dis ça, les dieux, c'est la même chose que les hommes, mais en décuplé.
C'est impressionnant, en effet. Donc, ces textes littéraires sont essentiellement en sumérien. Le sumérien, c'est, on va dire, la civilisation la plus ancienne. C'est quasiment...
Alors, il faut savoir que c'est la civilisation la plus ancienne, mais en même temps, quand on est lettré, on continue par la suite à écrire en sumérien.
C'est resté comme
c'est le latin.
Latin,
si vous voulez, du 19e, 20e siècle en France, le sumérien. C'est la langue que le scribe le plus lettré va utiliser.
C'est la langue des lettrés, mais dès le départ, donc c'est la langue des textes littéraires, ce sont des poèmes, ce sont des... Ce qui est très frappant, c'est la deuxième surprise dans votre livre, c'est le côté cru. Hein. Ce ne sont pas des mots bleus qu'on dit avec les yeux, ce sont des mots extrêmement crus. On parle de masturbation, on parle de pénétration, on parle de vagin, on parle de vulve, c'est extrêmement cru. Et vous dites qu'il y a une raison à ça, c'est volontaire.
C'est volontaire parce que la parole a une vertu performatrice. Autrement dit, en citant le mot, on crée la chose.
Donc, on fait appel à la puissance évocatrice.
Exactement.
C'est comme regarder un film porno de nos
jours.
Tout
à fait.
C'est exactement ça. Et donc, c'était destiné à susciter le désir.
À susciter le désir ou préparer soit la jeune fille, soit le jeune garçon, à ce qui va se passer par la suite.
Alors, on parle de la sexualité des dieux, mais en réalité, c'est ce qu'on voit en filigrane, c'est la sexualité des êtres humains.
Bien sûr, ces textes ont une vocation initiatique aussi pour les hommes. Les textes ont été écrits de toute façon par les hommes et non pas par les dieux. Donc, il faut bien qu'ils aient une fonction.
Alors, pour donner une idée aux auditeurs, vous nous avez pris quelques textes. On va choisir les plus présentables.
Ah, je vais vous lire peut-être celle justement où Enki perd la tête au moment de son adolescence, de sa crise d'ado, parce que donc, la crise d'ado, ça existe aussi chez les dieux. Enki, c'est le dieu de la sagesse et c'est celui qui ordonne le monde. Ce n'est pas le créateur du monde, c'est celui qui va l'ordonner.
Et la sagesse n'empêche pas le désir.
Eh oui, au moment de la crise d'adolescence surtout.
Et c'est... même le désir fou.
Lorsque de tous ces lieux il eut détourné son attention et que le vénérable Enki l'eut porté sur l'Euphrate, il se campa sur ses pieds comme un taureau impatient. Érigea son pénis, éjacula, et il remplit d'eau chatoyante le fleuve. Comme si c'était une vache au pâturage meuglant auprès de son veau demeuré à l'étable. Le tigre ensuite se soumit à lui, comme un taureau impatient qui, son pénis érigé, produit le cadeau des noces. Tel un aurochs géant en train de saillir, il fit jouir le tigre. Et l'eau qu'il produisit est ainsi chatoyante, suave, capiteuse. Le grain qu'il produisit est par la danse et nourricier. Ça dit tout. Ça dit que l'acte est fécond. Et le but des relations sexuelles, c'est aussi d'avoir des enfants.
On ne peut pas s'empêcher, quand on entend ce texte, de se dire que c'est quand même la traduction qu'on entend.
Oui.
Cette écriture mésopotamienne, qu'on appelle une écriture cunéiforme, c'était à la fois des dessins et des sons. On peut s'interroger sur la conformité de la traduction avec le texte originel. Est-ce qu'il y a des débats sur les traductions? Est-ce que la traduction est établie? Parce que c'est vrai que c'est un texte extrêmement évocateur.
La traduction est établie maintenant. Il y a de temps en temps des débats sur telle ou telle tablette. Il ne faut pas croire que l'on peut traduire une tablette comme ça, rien qu'en la lisant. Non, ça ne se passe pas comme ça. On a mis des années à fixer la langue, à traduire, à comprendre la langue babylonienne. Ensuite, on a mis des années à comprendre la langue sumérienne. On a d'abord compris la langue babylonienne avant de comprendre la langue sumérienne. Langue sumérienne qui est plus ancienne que la langue babylonienne, grâce à des bilingues babyloniens-sumériens. Donc, il fallait déjà comprendre le babylonien pour comprendre le sumérien. Et actuellement, on considère qu'on sait le traduire. Simplement, sur certaines tablettes, il y a des mots ou il y a des tournures qu'on ne comprend pas.
Donc, ce qu'on vient d'entendre là, c'était écrit en sumérien.
C'était écrit en sumérien. En même temps, il faut savoir que lorsqu'un texte est écrit, un texte littéraire ne se comprend jamais uniquement au premier degré. Dans les textes littéraires, on a certains scribes qui ont la particularité de multiplier les niveaux de lecture.
Alors, on va prendre un exemple très simple. Enlil, En c'est le seigneur, Lil c'est le vent.
Oui.
Mais le vent c'est aussi le tourbillon, c'est aussi l'orgasme.
Oui, tout à fait.
Donc c'est le seigneur de l'orgasme.
Tout à fait.
Donc on faisait des jeux de mots.
Tout à fait, et Enlil c'est le roi des dieux.
Et cette langue sumérienne, alors pour nos auditeurs encore une fois, la langue sumérienne est une langue qui est un peu isolée dans le monde des langues. C'est une langue agglutinante qui est à part, qui ne fait partie ni de la famille de langues sémitiques, ni de la famille de langues indo-européennes. Contrairement à l'acadien, qui est une langue sémitique comme l'hébreu, comme l'arabe, comme les langues que nous avons toujours à notre disposition aujourd'hui. Mais ils partagent, ces deux langues partagent la même écriture qui est l'écriture cunéiforme et qui a été inventée par les Sumériens.
Alors, la même écriture, c'est une écriture cunéiforme, mais les Sumériens sont des sumérogrammes, un peu comme des émoticônes actuellement. Et les Babyloniens ont des signes phonétiques, sachant qu'un signe produit plusieurs sons et qu'un son peut être écrit par plusieurs signes. Et que quand on est un lettré, on peut mélanger les trois. C'est-à-dire un idéogramme et puis différents signes qui renvoient à différents sons ou des sons qui renvoient à des signes.
Comme lorsqu'on écrit des textos, d'ailleurs, on mélange souvent les trois. Hein,
tout à fait, comme les jeunes
rien,
de maintenant.
Rien n'a changé. Rien n'a changé. Thank you. Donc vous m'avez dit que ces textes littéraires avaient pour objectif de susciter le désir et de préparer les jeunes, de les préparer à la vie amoureuse.
À la vie amoureuse. Par exemple, il arrive beaucoup de choses à la jeune déesse Ninlil quand elle décide d'aller se baigner toute seule à la rivière. Elle se fait violer et indirectement, ça dit aux jeunes filles, n'allez pas vous baigner toute seule dans une rivière.
Oui, et l'histoire se termine bien quand même.
L'histoire se termine bien. Souvent, les histoires se terminent bien dans les textes littéraires.
Mais ça veut dire quand même que les jeunes savaient lire et écrire, donc qu'ils avaient alors, la possibilité. Ou alors, est-ce qu'il y avait des personnes qui lisaient pour eux, des lecteurs, des lectrices ?
Il y a beaucoup plus de gens qui savent écrire, parce qu'on commence à apprendre à écrire avant d'apprendre à lire. Donc il y a beaucoup plus de gens qui savent écrire et lire que, par exemple, à l'époque romaine, grecque, médiévale en France. Même moderne. Cela dit, il y a aussi beaucoup de gens qui récitent. Et donc, on entend les mythes. Un peu comme les chanteurs de rue, il n'y a pas si longtemps, quand la radio n'existait pas.
Mais il devrait y avoir une profusion, parce que compte tenu du nombre de tablettes qu'on a, qui est resté, il devait y en avoir beaucoup plus déjà à l'époque. Donc, il y avait une forme de, comment dire, un monde de l'édition qui grouillait, qui publiait. Enfin, on fait toujours des parallèles avec le monde moderne, mais c'est assez étonnant.
Alors oui et non, parce qu'on a aussi beaucoup de textes qui, une fois écrits, sont considérés comme fixés. C'est-à-dire qu'il y a des variantes locales, mais dont on va reproduire sur des millénaires à peu près les mêmes textes.
Il y a aussi dans votre livre des photos, des illustrations, des bas-reliefs, des sculptures. C'est très explicite, là encore. Je ne sais même pas si on pourra reproduire ça sur notre site et montrer. On est vraiment dans la liberté de l'image incroyable, avec des scènes de sodomie vraiment explicites.
Alors, vous avez deux types, en fait, de petites tablettes en argile. Vous avez celle où vous avez l'homme et la femme en train de faire l'amour sur un lit. Et en fait, ce sont des petites tablettes que l'on accrochait au lit. Justement, au lit, c'est pour les couples, là. C'est pour les gens au sein d'un mariage, pour favoriser la relation sexuelle. Et la deuxième, c'est des scènes, donc, un peu de sodomie, de taverne. On a parfois la cruche, on a la femme qui boit avec un long chalumeau de la bière, parce que la bière, c'est assimilé au sperme, c'est assimilé au liquide séminal aussi. Et donc, c'est un peu les revues porno de l'époque. Ça donne un petit peu de vigueur à monsieur quand il en a perdu un peu.
Le berceau de l'histoire.
On va passer à une autre pratique qui avait cours donc à Babylone et dans tout le monde mésopotamien, c'est la séduction. C'est la séduction. Vous avez beaucoup de textes sur la séduction. Alors il y a plusieurs sortes de séduction. On commence par ce que vous voulez, peut-être l'aspect physique, l'apparence, les critères de séduction physique.
Eh bien, pour une femme, il faut avoir un peu les canons de... Vous voyez, Marilyn Monroe en brune.
D'accord.
Avec une chevelure qui va à peu près jusqu'aux fesses. Ce serait un peu le canon de l'époque féminin. Et après, il faut bien s'apprêter. Je vais vous lire un petit texte. Je me suis baignée et lavée. Baignée dans le bassin chatoyant et lavée dans la cuve blanche. Dans la cuve, je me suis frontée d'Ogouan, j'ai revêtu mon manteau de reine, la reine du ciel et de la terre. Voilà pourquoi je me suis enfermée chez moi. J'ai fardé mes yeux de kohl. Mes cheveux ébouriffés, je les ai lustrés sur ma nuque. J'ai peigné mes mèches en désordre. Je sais quelle barrette et quelle épingle à cheveux lui plaisent. Sur ma tête, j'ai rafraîchi ma chevelure crépue. J'ai regroupé mes tresses éparses afin qu'elles recouvrent ma nuque. Je me suis mis des bracelets d'argent aux mains. J'ai attaché autour de mon cou un collier de petites perles. Et j'ai bien mis en place sur le devant de ma gorge le pendentif. Et pour une femme, il faut être belle. Pour un homme, il faut être beau aussi.
Alors, hein. ce texte date de quand ? Qui l'a écrit ?
Alors, ce texte, on ne sait pas qui l'a écrit. Il fait partie des textes littéraires sumériens, donc, que l'on récitait auprès des jeunes filles, juste avant leur mariage. Ça fait partie de ce qu'on appelle les textes de fiançailles.
Ah, il y avait un, donc...
Ce que nous appelons les textes de fiançailles. À l'époque, on ne sait absolument pas si on les lisait au moment des fiançailles, mais ce qu'on appelle ça textes de fiançailles, parce qu'elles s'arrêtent juste au moment... Il y a tout ce qui va arriver à la déesse, à la belle jeune fille qui doit se préparer, jusqu'à la consommation du mariage, et là, ça s'arrête. Et donc, c'est pour ça qu'on dit textes de fiançailles, puisqu'on ne va pas plus loin que le mariage.
Et ces textes sont écrits par des hommes ?
Alors, par des hommes, mais peut-être aussi par des femmes, puisque à l'époque, on a des femmes dont on sait qu'elles écrivent. En revanche, comme les textes n'ont jamais d'auteur, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, la plupart du temps, ce sont sans doute des hommes, mais on n'en est pas sûr à 100%. Et ne pas avoir d'auteur, ça fait la particularité de ces textes et ça leur donne ni début ni fin. Donc, c'est important qu'il n'ait pas d'auteur. Il n'y a pas la revendication de droit d'auteur comme à notre époque à nous.
Et c'est toujours la femme qui séduit ? C'est toujours la femme qui doit faire l'effort de séduire ? Il n'y a pas de texte qui concerne les hommes ?
Pas toujours, mais je ne vous ai pas dit comment devait être un homme.
Ah, je vous écoute.
Alors les hommes, eux, ils doivent être forts. Forts. La tablette de chocolat. Hein. Bon. Un peu Johnny Westmuller, c'est bien. Mais alors avec une chevelure très, très, très abondante. Parce que la chevelure et la couleur noire de la chevelure, c'est ce qui fait la virilité. C'est le signe manifeste de la virilité. Je vais vous lire un autre petit texte. Oh, mon chevelu, mon chéri, mon chevelu comme un palmier, mon chevelu comme un tamari touffu, mon ami à la chevelure sextuple. Serre-la contre mon sein, ô mon chéri. Mon lion à la crinière quadruple. Serre-la contre mon sein. Mon frère au beau visage. Alors c'est mon frère, c'est pas de l'inceste. Hein, c'est juste qu'ils sont à égalité, du coup. Mon chevelu flamboyant. Mon chevelu à la toison épaisse. Donc, malheur aux chauves, hein, messieurs.
On n'aime pas les chauves.
Simplement, le poil, où qu'il soit, c'est un signe de force. Donc, plus vous avez de cheveux et plus vous avez de poils, plus vous êtes vigoureux.
Et donc, malheur aux chauves, vous dites malheur aux chauves, donc les chauves devaient avoir une vie infernale.
Oh, mais on ne devient pas chauve à 7 ans, donc on peut avoir une belle vie avant. Et malheureusement, la mortalité est un petit peu plus jeune que de notre époque.
Alors, est-ce qu'ils avaient l'habitude de mettre des perruques pour cacher leur calvitie ?
On a des attestations de perruques. Est-ce pour cacher une calvitie ? Pas seulement, puisqu'on a des perruques pour femmes et on a aussi des perruques de voyage, de manière à avoir des beaux cheveux pendant le voyage, mais qui ne soient pas totalement couverts de poussière à l'arrivée.
Alors, est-ce qu'il y avait aussi, pour la séduction, des filtres d'amour, de la magie, des méthodes pour faire revenir l'amoureux qui est parti ou pour faire tomber quelqu'un dans ses filets ? Est-ce qu'il y a toutes ces ruses ?
Pour faire tomber quelqu'un dans ses filets ?
Enfin, façon de parler.
Oui, on peut avoir des... Pour rendre quelqu'un amoureux de quelqu'un, on a des filtres. Alors, ce n'est pas des filtres, c'est plutôt des incantations. On va dire des choses pour que, automatiquement, un homme qui veut avoir une femme va réciter cette incantation. Je vais vous en trouver une, là. Alors, je suis c'est désolée, toujours... c'est un petit peu cru.
Mais je vous en prie, c'est toujours l'homme, c'est pas la femme.
Si, on a tout. On a aussi de la femme pour l'homme. Là, c'est une incantation qui date du règne d'Ishmedagan, c'est-à-dire de 1974 à 1954 avant Jésus-Christ. Je te frappe sur la tête, perturbant ton esprit. Que ma volonté soit ta volonté. Que ma décision soit ta décision. Je te possède comme Ishtar a possédé Dumuzi, comme la bière attache celui qui la boit. Je t'ai attaché avec ma bouche chevelue, c'est-à-dire mon anus, avec mon vagin ruisselant de liquide séminal, avec ma bouche qui salive, avec mon vagin ruisselant de liquide séminal, aucune rivale ne se mettra entre nous. Vous voyez, là, c'est la fin.
Je reste sans voix. Il y avait des tavernes à Babylone, il y avait des tavernes dans ces villes oui. mésopotamiennes. On voit d'ailleurs des bas-reliefs qui représentent des prostituées dans les tavernes et des clients. On dirait que la prostitution était quelque chose de très répandu, de très courant. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un fantasme ?
Alors, c'est un fantasme aussi, c'est un grandement un fantasme grec, hein, qui est dû justement à la fois aux prêtresses qui ont le droit d'avoir des relations sexuelles et au fait qu'il y ait effectivement des prostituées comme il y en a dans tous les pays et à toutes les époques. Ce sont les louves romaines hein, qui existent aussi, et en Grèce ça existait aussi. Oui, il y a des tavernes dans toutes les villes, comme il y avait des bordels dans toutes nos villes, il n'y a pas encore si longtemps que ça, au siècle dernier.
Au XXe siècle.
Au XXe siècle.
Et donc dans ces tavernes, la sexualité était libre, tout le monde pouvait s'y rendre, il n'y avait que les prostituées. Est-ce que les femmes pouvaient aller, je ne sais pas, boire une bière par exemple? C'était quelque chose de...
Enfin, comment vous dire? Tous les hommes peuvent y aller, il n'y a pas de souci. Une femme de bonne famille ne va pas aller à la taverne. Ou alors, ça veut dire qu'elle va se comporter comme une débauchée, une prostituée, et donc ce sera mal vu, elle risque de se faire répudier. Une prêtresse, qu'elle soit une religieuse ou une entoum, en revanche, pour elle, c'est interdit d'aller à la taverne. Et si elles y vont, le code d'Amourabi est très clair. Elles sont brûlées vives.
Pas simple, le code d'Amourabi, pas simple. Véronique Grandpierre, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous en reparlerons demain. Nous reprendrons notre conversation sur les textes juridiques demain. Cette émission est réalisée par Vanessa Rovinsky. Merci à vous de l'avoir suivie. Merci encore, Véronique Grandpierre, et à demain.
Avec grand plaisir. À demain.